la parole de Dieu et partager quelques encouragements, quelques enseignements. Le texte qui me servira de base ce matin se trouve dans le premier livre des Rois, au chapitre 8. On va ensemble lire deux séquences d'une longue prière que le roi Salomon a adressée à l'Éternel. 1 Rois chapitre 8, c'est la fameuse prière d'inauguration après la construction du temple. Salomon va rassembler le peuple, il va rassembler les anciens d'Israël, tous les chefs de tribus, etc. Et il va faire monter à l'Éternel d'une façon tout à fait solennelle une longue prière. On va simplement lire les versets 22-23 pour commencer. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains vers le ciel et il dit : Ô Éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Et puis au verset 41, quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu. Quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Amen. On aurait pu lire la totalité de cette prière. Elle est longue, mais elle est remplie d'enseignements. Ça y est, le roi Salomon a réussi la construction du temple. Le temple est achevé. Et au lieu de trouver un roi qui est transporté d'enthousiasme, et au lieu de trouver chez lui l'expression d'un bonheur débordant, on trouve plutôt un homme responsable, presque grave, solennel. Il a réussi à construire le temple, mais il est conscient que tout le parcours qui se présente devant le peuple d'Israël va être un parcours qui va nécessiter qu'en permanence on invoque le Seigneur et qu'en permanence le secours, l'assistance et les soins divins soient multipliés pour que la marche du peuple soit victorieuse. Alors oui, l'évangile c'est la joie, hein? Amen, hein? Oui, l'évangile c'est l'allégresse. Oui, la foi chrétienne nous transporte d'espérance et nous donne de vivre des tressaillements et des émotions au fond de nous, mais en même temps, on sait, frères et sœurs, que nous aurons besoin, tout au long de la marche spirituelle, d'invoquer le Seigneur et de nous attendre à son aide et à son assistance. On ne l'a pas lu, mais il y a toute une énumération de situations, de difficultés, d'épreuves, d'hostilités que Salomon énumère. Si quelqu'un pêche quand ton peuple sera battu par l'ennemi, quand le ciel sera fermé, quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, une énumération de difficultés. Et des difficultés qui mettaient en cause et en question, comment dire, l'intégrité et la santé et même la subsistance du peuple. Il va y avoir toute une énumération. Et c'est vrai que dans la marche chrétienne, eh bien, il faut s'attendre à rencontrer toute une succession de situations qu'on n'aurait jamais voulu rencontrer, mais qui vont intervenir. Il y aura l'invasion de sauterelles dévoreuses qui vont essayer de détruire les excellences que Dieu va produire en nous. Il va y avoir des pensées telles des nuées de sauterelles qui vont essayer de dévorer ta paix, de te voler ta joie, de perturber ton assurance dans le Seigneur. Il va y avoir parfois des états de siège. Semble que l'adversaire ait décidé de te prendre pour cible et il fait converger toutes sortes de circonstances difficiles et tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Tu es en état de siège. Eh bien oui, parfois tu vas prier et tu auras l'impression que le ciel est fermé et que ta prière ne dépasse pas le faux plafond de ta cuisine. On peut passer par toutes sortes de situations. Eh bien, le remède constant, c'est l'invocation du Seigneur. C'est d'invoquer le Seigneur, car quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé, secouru, relevé, encouragé, rassuré, apaisé, d'invoquer le Seigneur. Alors, voilà, et quand on lit cette longue prière, on s'aperçoit donc que l'adversaire ne va pas manquer de multiplier les tentatives de perturbation, d'entrave, etc. Sa stratégie n'a pas changé, vous savez. Depuis l'époque de Salomon, la stratégie de l'ennemi n'a pas changé. La stratégie de l'ennemi sera de multiplier toutes sortes de difficultés, d'ériger sur ton chemin des montagnes, des difficultés dans un seul but, ou plutôt deux qui sont liées entre elles. Le but de t'épuiser pour te faire passer à côté de la grande commission que le Seigneur confie à son peuple. Un double but, je le disais, t'épuiser, t'amener à une déperdition d'énergie stérile, te fatiguer afin de te faire passer à côté de la grande commission que le Seigneur nous confie aux uns et aux autres, d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Vous savez, la grande commission du Seigneur. La stratégie de l'épuisement est certainement une de celles que l'ennemi préfère. Épuiser l'adversaire. Cela fait bientôt 18 ans que nous sommes à Nîmes, et la ville de Nîmes est entre autres célèbre pour ses arènes. Et dans le Gard, vous avez des arènes partout, dans l'Hérault, ça c'est les vestiges de l'Empire gallo-romain, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, la tauromachie dans toutes ces régions est une pratique très ancré dans la mentalité locale. Et je réfléchissais, moi c'est un truc que j'aime pas du tout, la tauromachie, moi ça me, je trouve que c'est, J'arrive pas à l'accepter, mais c'est comme ça. Par contre, on peut réfléchir sur la stratégie du torero, à l'égard du taureau. Vous voyez, il y a les arènes pleines, un public fanatisé, et le torero, 1,65 m, entre dans l'arène en bombant le torse fièrement. Et puis, on lâche le taureau, 250 kilos de muscles. Un petit bonhomme qui fait 65 kilos sur la balance Terraillon, et en face, un taureau impressionnant, avec ses gestes et son souffle et ses muscles saillants, n'est-ce pas ? Quand vous comparez les deux, c'est qui le plus fort ? C'est le taureau, oui ou non ? Et la plupart des cas, qui c'est qui va mourir ? Ben c'est le taureau. Pourquoi ? Parce qu'en face, il y a quelqu'un qui va appliquer la stratégie de l'épuisement. Le torero sait très bien qu'il ne fait pas le poids s'il veut combattre le taureau frontalement, il ne fait pas le poids. Alors il va développer une stratégie pleine de ruses avec son drap rouge, la muleta, qui cache l'arme fatale. Et il va faire tournoyer cette étoffe rouge devant les yeux du taureau. Et le taureau, il ne voit que du rouge. Et il va se jouer du taureau. Il va se jouer du taureau. Il va le provoquer. Toro, toro. Il va avoir une attitude qui va stimuler chez le taureau des gestes dans le vide. Des coups de corne dans le vide, inutiles. Et au bout d'un certain temps, le torero discerne que le taureau marque les premiers signes de fatigue. Ses gestes sont un peu plus lents. Son regard est un petit peu voilé. À un moment donné, il va commencer à écumer. Et puis sa langue, elle va se mettre de travers. Et à un moment donné, Le torero se dit, ça y est, le moment est venu, il est bon à prendre. Et c'est là qu'il lui lance son dernier défi et qu'il lui transperce l'échine d'un coup d'épée et c'est le taureau qui tombe. Le roi David a fait une complainte lorsque le jeune Amalécite lui a dit, en courant du champ de bataille, « Saül est mort, Jonathan est mort, et David a pleuré. » Il a posé une question qui devrait tous nous interpeller. Comment les héros sont-ils tombés ? Et on pourrait transposer, si vous me le permettez, en pensant à tel ou tel bien-aimé dans la foi qui est tombé, comment un enfant de Dieu pour qui Christ a triomphé en est-il arrivé à tomber ? Alors je bénis Dieu parce que il faut quand même préciser à la lumière des Saintes Écritures que cette fois, le juste tombe, mais il se relève toujours. Le taureau des arènes de Nîmes, non. Mais le juste se relève toujours. Nous sommes vulnérables, mais nos vies vulnérables sont entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Gloire à Dieu. Cette fois, le juste tombe et peut-être quelqu'un ce matin parmi nous est accablé dans sa conscience parce que tu es actuellement dans une position de chute. Eh bien, la Bible me dit que malgré la fréquence et la répétition de nos chutes, au bout, c'est le relèvement qui triomphe. Le juste se relève, parce que Dieu le relève, parce que Dieu est fidèle et qu'il a la volonté de venir au secours de ses enfants. Frères et sœurs, soyons en garde contre cette stratégie diabolique qui consiste à nous épuiser en multipliant dans notre quotidien toutes sortes d'événements, de circonstances qui nous prennent la tête, qui nous envahissent les préoccupations. On n'a plus le temps de lire sa Bible, on n'a plus le temps de prier, on n'a plus le temps de s'émerveiller de Jésus, tellement on a les cornes dans la muleta. Gardons-nous de cette stratégie, parce qu'à un moment donné, ce que j'observe, c'est que Salomon prie pour différentes situations, et à un moment donné, au verset 41, il arrête de prier pour énumérer tous ces événements et toutes ces circonstances difficiles. Et au verset 41, il semble que la vision de Salomon se déchire, elle s'ouvre, sa perspective s'ouvre quand l'étranger... Il parle de l'étranger. C'est comme si Dieu lui disait, « Oui, c'est important de prier pour que mon secours soit accordé à mon peuple dans les différentes situations qu'il aura à gérer, mais il y a aussi une réalité à ne pas oublier, c'est l'étranger. C'est celui qui ne connaît pas le Seigneur. Quand l'étranger, qui n'est pas de ton peuple d'Israël, viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux. » Et nous prions pour que beaucoup d'étrangers, pas simplement sur un plan, vous voyez, d'état civil, beaucoup de jeunes, de moins jeunes, de couples, de familles, qui sont étrangers aux choses de Dieu, qui sont peut-être même éloignés, très éloignés des choses de Dieu, puissent apprendre, on saura, qu'ils puissent apprendre l'information de la bonne nouvelle, qu'il y a un Dieu qui les aime, parce que Dieu aime les étrangers. Amen. Au fait, nous étions nous-mêmes étrangers, jadis, avant que Jésus ne nous rencontre, oui ou non. Dieu, très loin, au temps de Moïse, va dire, « Tu te souviendras de l'étranger, parce que tu as été étranger en Égypte. » Je ne veux pas oublier que j'ai eu un temps où j'étais étranger aux choses de Dieu. Ignorant, éloigné, coupé à cause de mes péchés. Je ne peux pas oublier que j'ai été un adolescent qui ne connaissait pas Jésus. Je me revois encore à Lyon dans le bus numéro 41. On rentrait du collège et un copain comme ça me dit « Tcherk ». C'est moi. Est-ce que tu crois en Dieu ? Et je me suis mis à rire bruyamment. J'étais plein de moqueries vis-à-vis de ces choses. Je ne savais pas que quelques semaines plus tard, j'allais me retrouver à mon premier culte dans l'Assemblée de Dieu de Lyon et Dieu allait me rencontrer. Et d'étranger, ce jour-là, je deviens enfant de Dieu. C'est différent. Quel drame, je dirais, quel dommage et quel drame d'être étranger ou de se sentir étranger. J'espère que personne ici ne se sent étranger parce que le ressenti d'être étranger, c'est comme une distance qui sépare. C'est quelque chose de très inconfortable. On n'est pas... Heureux, la Bible nous parle de la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Quand on est enfant, oh là là, quel bonheur, hein, quelle liberté. Mais quand on se sent comme en décalage, en déphasage. Quelqu'un peut-être ce matin, en entendant les cantiques, s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils ont ces gens à chanter comme ça? Et quand tu as commencé à entendre les chrétiens remercier Dieu à voix haute, tu t'es dit, mais ils y croient vraiment. Tu as peut-être admiré, sans le vivre toi-même. La volonté de Dieu, c'est que tu ailles plus loin que le fait d'admirer de l'extérieur. C'est que toi-même, tu entres dans le salut qu'il t'offre et que tu puisses vivre et goûter le même bonheur que les frères et les sœurs, le peuple de Dieu. Quel dommage, quel dommage. Remarquez, je vais vous dire une chose. Je peux être chrétien, aimer Jésus, être baptisé depuis peu ou depuis longtemps, et parce que intérieurement, je ne suis pas dans de bonnes dispositions, et ça peut arriver à tout le monde, ça m'est arrivé tant de fois. Ça m'est arrivé tant de fois de me retrouver dans des soirées de prière, dans mon église, dans ma chère église. Et quand j'entendais les frères et sœurs bénir Jésus, et moi j'étais complètement au triple zéro, vous voyez. Eux, ils étaient au triple galop, mais moi j'étais au triple zéro. J'étais vraiment par terre, j'étais accablé par la culpabilité. L'accusateur était en train de me montrer ma misère et j'étais incapable de partager leur joie. Ça peut arriver à tout le monde. Si quelqu'un ce matin se trouvait intérieurement dans des dispositions qui lui font l'impression d'être étranger, de ne pas pouvoir se réjouir en communion avec le reste de l'Église, Dieu aime l'étranger. Et Dieu veut visiter ton cœur. Et il veut débarrasser ton cœur de tous les éléments qui génèrent en toi une sorte de gêne, de malaise, et te permettre d'entrer, toi aussi, en phase et en communion avec tes frères, tes sœurs, et que d'un même cœur, tous ensemble, nous nous réjouissions du Seigneur. Un jour, le Seigneur posera une question et un scribe va lui répondre. Et quand Jésus va entendre la réponse du scribe, voyant qu'il a répondu avec intelligence, Jésus va lui dire, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Si j'y réfléchis, je trouve qu'il y a là un message. Tu n'es pas loin, mais tu n'y es pas. Il y a quelqu'un parmi nous ce matin qui n'est pas loin. Tu as la croyance, l'éducation chrétienne, certains rudiments, certaines notions, tu n'es pas loin. Tu as des valeurs qui sont celles que l'Évangile enseigne, tu es respectueux, respectueuse, respectable, tu n'es pas loin, mais tu n'y es pas. Parce que le jour où Dieu a fermé la porte de l'arche du temps de Noé, certains étaient à 800 mètres, d'autres étaient à 50 centimètres dehors. Mais quand la porte s'est fermée, l'un comme l'autre se sont retrouvés dehors. On peut ne pas être loin, mais ne pas y être. Et ce que Dieu veut, c'est que tu entres. C'est que par la foi, d'étranger, tu deviennes enfant de Dieu. C'est la foi qui le permet. Voyez-vous, la foule que Jésus a nourrie en multipliant pains et poissons, elle a bénéficié de la grâce du Seigneur, elle a mangé du miracle, mais à un moment donné, tous l'ont abandonné, montrant par là qu'ils sont restés étrangers. Et vous, dira Jésus à ses proches, ne voulez-vous pas m'abandonner également? Alors l'apôtre Pierre a une parole magnifique À quel autre irions-nous qu'à toi, Seigneur ? Nous, nous avons cru la foi. Et donc, nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. La foi nous permet de passer du statut d'étranger à celui d'enfant de Dieu. Quand je crois, en même temps, je connais. Dieu aime les étrangers, même si ces derniers pourraient avoir des complexes. Par exemple, dans Ésaïe, au chapitre 56, il y a quelques lignes que j'aimerais vous proposer à la lecture. Et pourtant, c'est l'Ancien Testament, hein. Mais Dieu va dire ceci, que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « Oh, l'Éternel me séparera de son peuple ». Au verset 6, les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat, pour ne point le profaner, qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte, ça c'est la communion avec lui, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Amen. Voyez, le sentiment d'être étranger inspirera toujours en nous des pensées négatives. Que l'étranger ne dise pas « Oh, je suis pas comme les autres. L'Éternel me séparera de son peuple. » Alors il y a comme une sorte de cycle, de spirale, et Dieu, par sa parole, casse ce mécanisme nuisible et dit « Les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. » Oh, que parmi nous ce matin, nul ne soit étranger à l'amour de Dieu. Et que nul ne se sente étranger parce que dans les dispositions secrètes de son âme, il y aurait un décalage, peut-être un ressenti pas très agréable, mais ça n'empêche pas que Dieu t'aime et que sa volonté, c'est de nourrir avec toi une communion d'amour riche, profonde et personnel, que le Seigneur soit béni. Avez-vous remarqué que dans la généalogie de Jésus, telle que l'évangile de Matthieu nous rapporte, il y a quatre femmes, ce qui est exceptionnel. C'est contre les habitudes. C'était exceptionnel quand on mettait le nom d'une femme dans une généalogie hébraïque, c'est parce que vraiment il y avait eu un événement particulier où la femme en question était exceptionnelle. Mais là, il y a quatre femmes, quatre étrangères. Dieu, déjà, démontre son amour pour toutes les nations, tous les peuples, en introduisant dans la généalogie du Messie à venir quatre femmes, Tamar, Rahab, qui était des Cananéennes, Ruth, qui était une Moabite, Bathsheba, qui par son lien de mariage avec Uri était une Hittite, était considérée comme une Hittite. Mais vous le savez, je parlais de la foi, à un moment donné, Ruth, l'étrangère, a dit à sa belle-mère, « Ton Dieu sera mon Dieu et ton peuple sera mon peuple. » Ça, c'est la foi. Amen. Et cette foi merveilleuse a permis que Dieu la greffe dans la généalogie du Sauveur à venir. Ah, je bénis Dieu parce que nous sommes encore dans le temps de la grâce. Et que pour tous ceux qui sont étrangers à Dieu, il demeure la possibilité de ce grand miracle qu'on appelle la conversion. la rencontre avec Christ et qui fait que l'étranger, l'étrangère devient enfant de Dieu. Fils et fille du Seigneur, né de nouveau, alléluia, né du même Père, du Père céleste, que le Seigneur soit béni. Je terminerai ce message m'intéressant à une parole que Salomon prononce dans cette prière en faveur de l'étranger et que Dieu l'exauce dans cette demeure qu'il vient de construire. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car, et c'est ce qui va m'intéresser maintenant, on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu. Trois éléments majeurs que Salomon mentionne, trois éléments qui vont être divulgués, diffusés jusqu'au loin, afin que même au loin, on sache qu'il y a un Dieu qui n'est pas de bois sculpté, de pierre sculptée, de métal fondu, mais qui est le seul Dieu vivant et vrai. Tout au loin, trois informations vont parvenir, suscitant la foi et permettant que l'étranger vienne dans la maison. C'est que son nom est grand. Sa main est forte. Amen. Et son bras est étendu. J'aimerais terminer avec quelques réflexions sur ces trois points absolument sublimes et merveilleux. Oui, oui, il est essentiel que nous connaissions le nom de Dieu, car en connaissant le nom, on connaît la personne. Certains, dans leur ignorance, disent « Ah, je veux bien croire qu'il y a quelque chose quelque part. » Ben, on est bien avancé avec ça. Ben, nous, on ne croit pas qu'il y a quelque chose quelque part. On a rencontré une personne. Parce qu'un nom nous révèle une personne. Nous ne sommes pas dans la démarche pernicieuse de guerre de religion. On ne peut pas entrer dans cette pensée de savoir quelle est la religion la meilleure, mais parce que toute religion conduise inévitablement à une impasse. Ce n'est pas par une religion particulière que je connais Dieu, mais c'est par une relation. Amen. Pas une religion, mais une relation. Jamais dans ce lieu, nous n'entrerons dans des discours qui se positionnent sur le plan d'une comparaison de religions, parce que les religions et toutes les religions sont des émanations de l'intelligence de l'homme. Ce que Dieu veut, c'est que je le rencontre par une révélation de sa personne. Gloire à Dieu. Son nom nous présente sa personne. Son nom, en lisant les Écritures, je comprends qu'il contient des trésors à l'infini. Le nom de Jésus, ce n'est pas que du son. Mais le nom de Jésus est un coffre à trésors, si je puis prendre l'image. Et à l'infini, mon bien-aimé, ma bien-aimée, à l'infini, tu vas jouir des trésors contenus dans ce nom. Tu sais, ce nom dont il est dit que le Père l'a placé au-dessus de tout nom. Au point que, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Dans le ciel, toutes les créatures célestes et angéliques sont unanimes pour dire à Dieu et à l'agneau. Amen. Sur la terre, là où toi et moi nous avons nos combats, eh bien, le nom de Jésus est tel que tout genou qui s'oppose à ma progression fléchira, et sous la terre, dans les lieux spirituels malfaisants, le nom de Jésus nous a été donné en héritage. Un héritage de richesses, de trésors qui vont à l'infini. En mon nom, en mon nom, en mon nom, a dit Jésus. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. C'est ainsi que le père d'un jeune chrétien dans un pays de persécution s'est converti, parce que quand le père qui adorait le soleil, etc., plongé dans son paganisme, a appris que son fils avait donné son cœur à Jésus, le père a dit à sa femme, « Sers-lui un breuvage mortel. » Et on lui a servi, et lui, il ne savait pas, il a bu, il a passé une très bonne nuit. Et le lendemain, il était en pleine forme, 12,8 de tension. C'est beau ça, hein? Ça, c'est moi qui le rajoute. En pleine forme. Et le surlendemain, et au bout de 3-4 jours, son père a été convaincu de péché et convaincu que le Dieu de son fils est le seul Dieu vivant et vrai. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Et ce ne sont pas les mains des hommes qui sont quelque chose, mais c'est le nom dans lequel nous plaçons notre foi. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Je prie pour qu'il en soit ainsi pour quelqu'un en particulier ce matin. Qu'au nom de Jésus, tu reçoives la guérison dans ta santé. Alléluia. Le nom de Jésus que je peux aimer, dans lequel je peux puiser tant et tant de merveilleuses bénédictions. C'est son nom qui nous protège. Amen. Quand tu pries pour tes enfants, pour tes petits-enfants, parce que maintenant, moi, je suis dans le club des papis et mamies, hein, donc je vous ai rejoints. Hein. Quand nous prions, nous mettons le nom de Jésus. Amen. Invoquer le nom du Seigneur, placer en son nom toute notre confiance, confesser que son nom est au-dessus de tout nom, donc investi d'une autorité, d'une souveraineté incomparable et inégalable, il est sur son trône. Et en son nom, les miracles, les prodiges, le secours providentiel surgissent et interviennent. Que son nom soit béni. Alléluia. On saura que ton nom est grand, que ta main est forte. Amen. Et ceci nous parle de la puissance de Dieu, manifestée en Jésus-Christ. Ma Bible me dit que le royaume des cieux ne consiste pas en paroles seulement, ce n'est pas que des paroles, mais en puissance. La puissance du Seigneur, j'ai envie de dire, c'est la signature du Seigneur. Amen. C'est son label, la puissance du Seigneur. Vous savez, quand Jésus dira, jetez le filet du côté droit de la barque, chose qu'on ne faisait que très rarement, parce que quand on est droitier, on jetait le filet sur le côté gauche, là, c'est avec le bras gauche que Jésus va inviter. Donc, ce n'est pas dans la force humaine que se trouve la clé. Jetez-le du côté droit de la barque et quelle puissance! Alors qu'ils avaient pêché toute la nuit sans rien prendre, en un seul coup de filet, ils n'arrivaient plus à le retirer. Et ils finissent quand même par conduire la pêche sur le rivage. C'est tellement merveilleux qu'ils veulent compter le nombre de poissons, 153. Tellement c'était une démonstration de puissance. Ma Bible me dit à celui qui, par la puissance qui agit en nous, a le pouvoir de faire infiniment plus que ce que nous demandons, à lui soit la gloire. Que la main puissante du Seigneur se pose sur toi ce matin. Que la main puissante du Seigneur se pose sur un dossier que peut-être tu viens de déposer pour une démarche administrative ou matérielle, que sais-je. Que la main du Seigneur se pose sur peut-être un enfant que tu as laissé à la maison avec de la fièvre, que sais-je. La main du Seigneur, aujourd'hui comme hier, est capable d'accomplir des miracles. C'est la main qui repêche, c'est la main qui guérit, c'est la main qui maîtrise les circonstances. C'est la main qui opère en nous et autour de nous des changements absolument miraculeux. C'est la main qui délivre. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Ah oui, ah oui. Quand Dieu a étendu sa main, ce geste a suffi pour couper la mer Rouge en deux. Ce geste du Seigneur et une mer se fend en deux. Que le Seigneur fasse ce geste ce matin dans la vie de quelqu'un et que dans l'impossible surgisse le tout est possible. Amen. Et puis ton bras est étendu. Ton bras est étendu et j'y verrai ici simplement un geste d'accueil et de bienveillance. Amen. Et il faut que l'on sache que les bras de Dieu sont tendus. Amen. Je me suis converti jeune, vous le savez, mais lorsque je me suis converti, avec humiliation, j'ai pris conscience que ce n'était quand même pas la première fois que Dieu me tendait ses bras. Certains événements de mon enfance et de ma préadolescence sont revenus dans ma mémoire et Dieu me disait, tu vois, ce jour-là, je t'avais tendu mes bras, que j'avais repoussé encore, et plusieurs fois, jusqu'à ce que, eh bien, ce mois d'août 71, ce fut la bonne. Et là, je me suis laissé toucher par le Seigneur. Ce matin, les bras de Dieu sont tendus vers toi. Celui qui a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, te tend les bras. La question est de savoir ta réaction devant ce geste d'amour et de proposition gracieuse, gratuite de sa bénédiction, c'est de savoir si tu vas esquiver et te détourner ou si tu vas te laisser trouver par le Seigneur. Alléluia. Viens te jeter dans ses bras. Ils sont tendus. C'est le Seigneur qui accueille, qui invite. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ses bras ne sont pas croisés avec passivité. Ses bras ne se dérobent pas face à la détresse de l'humanité. Ses bras sont tendus en geste d'accueil. Eh bien, que quelqu'un ce matin qui est entre deux chaises, dans une position charnière, transitoire, indécise, prennent résolument la décision de se jeter dans les bras du Seigneur. Jette-toi dans ses bras. Alléluia. Donne-lui ta vie, donne-lui ton cœur et que tout le restant de ta vie, tu le vives dans les bras du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Alors, frères et sœurs, dans la multitude de nos soucis, de nos préoccupations, de nos problèmes, bien sûr, prions, invoquons son nom, mais n'oublions pas l'étranger. Et n'oublions pas la grande commission du Seigneur. N'oublions pas aller par tout le monde. Proclamez, prêchez, annoncez, dites, faites entendre, diffusez la bonne nouvelle de l'Évangile, qu'il y a de l'espérance en Jésus-Christ, que le Seigneur nous aide à vivre ces choses de plus en plus. Amen. Gloire à Dieu. On s'incline quelques instants, s'il vous plaît, et on